nous avons un grand problème, c'est la présence des fondamentalistes et des rebelles dans la vieille ville d'Alep. Maintenant, les fondamentalistes sont dans des zones qui sont un peu coupées de la ville où vivent les citadins. Par exemple, les quartiers où nous sommes, où vivent des musulmans aussi, il n'y a pas de fondamentalistes. Mais c'est dans la banlieue. Les banlieues et la périphérie de la ville, il y a des fondamentalistes. Alors nous subissons les conséquences des combats parce qu'il y a beaucoup de mortiers, de rounds, de projectiles qui causent la mort de beaucoup d'innocents et beaucoup de civils, malheureusement.
Et ces fondamentalistes dans les banlieues, est-ce que là vous avez des échos sur ce qui s'y passe, sur comment est-ce qu'ils essayent de faire appliquer leurs lois?
Nous avons des nouvelles de ce genre. Nous avons vu par exemple dans une ville qui est à 120-140 km d'Alep, à Raqqa, ils ont un tribunal coranique qui a décrété la crucifixion d'un certain nombre de personnes. À Alep aussi, ils essayent d'appliquer la loi musulmane fondamentaliste et qui exclut toute possibilité d'être différent. Et c'est ça qui est préoccupant. Autrement, nous n'avons pas de problème de vivre avec les musulmans. Nous vivons avec eux depuis 1400 ans et nous avons beaucoup d'amis musulmans, de chers musulmans. Hier, un cher musulman m'écrivait une très belle lettre. Je lui ai répondu et puis je lui ai envoyé la lettre de François pour la journée de la paix qui est merveilleuse. Lui, il parlait de charité et d'amour et je lui ai dit, écoutez, la fraternité, comme dit le pape, est la seule voie pour la pacification et la réconciliation. Nous essayons d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Et nous avons de très bonnes relations avec les musulmans.
D'ailleurs, il y a des musulmans qui, eux aussi, ont été crucifiés.
Oui, effectivement, à Raqqa, oui. Mais c'est ça, le malheur, c'est qu'il y a des étrangers qui sont là, qui n'ont aucune idée de ce qu'est vraiment l'islam, et qui ne savent même pas lire l'arabe, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas lu le Coran. Le Coran leur a été transmis, traduit ou présenté par des ulémas chers, qui eux peut-être, eux aussi ne connaissent pas l'arabe, et qui ont pris leur enseignement à certains maîtres de fondamentalisme qui les orientent. Et c'est ça le malheur, c'est que ils ont faussé l'islam et le Coran. Et le Coran n'appelle pas à toutes ces violences. Et le malheur, c'est que la majorité de ceux qui font la guerre, des rebelles, sont des étrangers, des chichans, des turcs, des gens qui viennent d'Afghanistan, un peu partout. Il y a un grand nombre de pays où le recrutement se fait.
On a l'impression, comme ça, vu de l'étranger, qu'à Alep, en ce moment, les seules forces en présence sont des fondamentalistes et qui se font la guerre sont des fondamentalistes islamistes. L'État islamique en Irak et au Levant, le Front al-Nosra, et en face d'eux, l'armée syrienne libre. Est-ce qu'il y a encore une présence aussi de l'armée de Bachar el-Assad?
L'armée gouvernementale est là, justement. Autrement, nous aurions été envahis dans toute la ville. En fait, ce qu'était la ville il y a 40 ans, 30 ans, est entièrement sous le contrôle du gouvernement. Par exemple, nos quartiers musulmans récents, tout ça, c'est le gouvernement qui a toujours son armée. Autrement, s'il n'y avait pas les forces de l'armée syrienne officielle, nous aurions été dans une situation vraiment pénible.
Le pape, à plusieurs reprises, a appelé toutes les parties à dialoguer, à trouver une solution négociée. Là, on a l'impression que c'est tellement morcelé que chaque ville a un sort, une histoire bien particulière. Aujourd'hui, un accord inédit a été conclu entre le régime et les rebelles pour qu'ils se retirent de la vieille ville de Homs. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce genre de solution qui pourrait finalement garantir un début de paix en Syrie?
Oui, ça peut être ça, mais il faut en même temps une paix globale, une entente globale. Il faut les deux. Il faut que Genève continue ses efforts pour arriver à une entente et une solution. Et il faut aussi cela, des ententes partielles, là où il y a des tensions et le plus de malheur que les gens subissent.
Vous n'avez pas l'impression que ça peut provoquer un morcellement du pays?
On a peur de ça, mais je ne pense pas, parce que finalement, tous les gens dans toutes les zones, ils ont besoin les uns des autres. Ils sont reliés à des organismes d'État ou des organismes de services qui sont unifiés. Et ils vivent de leur salaire qui vient de la caisse du budget national. Bon, je ne sais pas. Bien sûr, il y a des gens qui veulent créer ce morcellement. Mais je souhaite que ça n'ait pas lieu parce qu'autrement, ça finirait par anéantir le pays.
Ça serait la fin de l'identité syrienne?
Oui. L'entité syrienne, mais aussi de la viabilité d'un pays. Ce sera alors là de petits patelins, une chose vraiment malheureuse. De toute façon, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. nous espérons quand même que de plus en plus de personnes réalisent que la meilleure solution, c'est la réconciliation, l'entente et la paix. La paix qui est à l'avantage de tout le monde, parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de morts beaucoup plus important que ce qu'on déclare. Et aussi les destructions, l'anéantissement du pays.